Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Vous le savez, la situation est un petit peu particulière, donc pour accompagner cette phase effectivement de confinement, je voulais tout simplement vous proposer des épisodes hors série, un petit peu spéciaux. Dans ces épisodes hors série, je voulais aller donner la parole à des sportifs que j'ai potentiellement déjà interviewés, mais aussi à des personnes qui m'ont beaucoup influencé et inspiré durant cette première année de podcast. Le premier invité de cette petite série est un triathlète, c'est le premier point commun que nous partageons. Ensuite, il est podcasteur, mais depuis beaucoup plus longtemps que moi, c'est notre deuxième point commun. Et pour, comme on dit, jamais 203, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire aux lèvres et qui positive tout le temps. Bienvenue Hermano, comment vas-tu?
Salut Bart, merci beaucoup pour cette invitation et pour cette très belle introduction. Alors je suis tout rouge, tout ému si tu dis effectivement que je t'ai inspiré. En tout cas, je te dis encore un grand bonjour et puis un grand bonjour aussi à tes auditrices et à tes auditeurs. Je suis honoré et très content d'être parmi vous aujourd'hui.
Bah écoute, moi aussi je suis très content de te recevoir. Alors pour mettre un petit peu de contexte quand même, parce que les gens vont se dire mais qui est-il, que fait-il dans la vie, je te présente un petit peu et puis après on va commencer avec les questions que tu connais d'ailleurs. Mais juste avant, est-ce que tu peux rapidement te présenter en deux mots, ce que tu fais dans la vie et expliquer ta passion pour le podcast aussi?
Alors en deux mots, allez, on va faire un petit peu plus. Je dirais tout jeune quarantenaire en quarantaine. Oui, j'ai la quarantaine en quarantaine, il fallait absolument la faire celle-ci. Il y a un copyright sur ma fille de 17 ans. L'autre mot, eh bien, c'est justement papa de 3 enfants et bientôt un quatrième qui va voir le jour en 2020. Donc c'est notre quatrième point commun, Bart. Je suis désolé, je dévoile un petit peu ta vie privée. Et puis sportif. J'ai commencé plutôt sur le tard, le sport. Quand j'étais jeune, j'étais plutôt un enfant qui aimait bien manger, plutôt le sucré, plutôt bedonnant. Et puis à 16 ans, un peu comme Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit, moi j'ai découvert le triathlon. triathlon, et notamment un triathlète que tu as déjà interviewé sur Extraterrien. Et voilà, j'ai été piqué par le virus du triathlon, et depuis, et ben, c'est un petit peu en dents de scie. Je continue, je m'arrête. En tout cas, ça fait partie de mes passions. Et mon autre passion, tu l'as dit, et bien, c'est podcaster. J'ai découvert le podcast en fin des années 2010. Je me suis lancé en 2014.
Ah ouais.
Et je suis encore là. Avec des nouveaux projets, notamment un sur lequel tu as collaboré. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans cet épisode. Et puis, allez, juste pour finir, après je te redonne le micro, c'est quand même toi le maître de cérémonie de cet épisode. Je pense que je suis pas tout à fait un inconnu, parce que je t'ai déjà remercié, mais j'en profite d'avoir les ondes pour le faire. Tu m'as déjà cité à plusieurs reprises dans ton podcast, donc merci, merci, merci. Et tu m'as même cité dans ta dernière newsletter, donc ça c'est top.
Bah ouais, effectivement, tu as un... Alors, t'as différents podcasts. Je sais qu'il y en a un où tu expliques un petit peu ta préparation marathon. Il y en a un autre qui s'appelle Nakan, qui est sûrement celui qui rencontre le plus son auditoire, qui est un podcast sur la course à pied et les objets connectés et la performance, que moi j'aime beaucoup parce que il y a votre retour d'expérience. C'est pas du conseil mainstream pour faire plaisir à tout le monde avec de l'eau dans le vin, si on peut dire l'expression, mais c'est vraiment vos retours d'expérience. Donc c'est vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une vraie valeur ajoutée comparée à d'autres podcasts. Et puis on a lancé, tu as lancé, et puis j'ai un petit peu participé à Vestiaire récemment. Est-ce que tu peux nous faire en deux mots le, pourquoi deux mots, autant que tu veux, est-ce que tu peux nous faire un petit peu le pitch de Vestiaire?
Ouais, bien sûr. Alors Vestiaire, tout simplement, c'est le podcast qui vous en dit plus sur la manière que trouvent les sportifs professionnels de financer leur carrière. Et quand je veux dire à la manière, je veux surtout dire tous les déboires qu'ils rencontrent et la résilience dont ils font preuve pour pouvoir réussir à vivre de leur passion qui est leur sport. Au singulier comme au pluriel, hein. On l'a vu notamment avec Cédric Fleurton que j'avais eu sur le podcast, ancien triathlète qui est maintenant un trailer confirmé. Et voilà, il joue toutes et tous de tous les atouts qu'ils peuvent avoir pour pouvoir financer leur carrière. Et à travers ce podcast, je retrace un petit peu le parcours du combattant qu'ils rencontrent au jour le jour pour pouvoir vivre de leur passion.
Bon, bah, un sujet que j'aime beaucoup, des invités que j'aime beaucoup aussi, évidemment. Donc, j'encourage tous les auditeurs à aller écouter vraiment de ce pas. Ça s'appelle Dans les vestiaires. Le logo est bleu avec un micro rouge. Voilà. Et peut-être que sur certains épisodes, vous entendrez le son de ma voix.
Oui, mais j'espère bien qu'on va entendre encore plus le son de ta voix sur d'autres épisodes, Bart.
Je reviendrai, c'est promis, je reviendrai, on en fera d'autres. J'attends ton invitation. plutôt que le matin à 8h pour le midi ou le soir même, tu vois. Il y a quelques jours d'avance, moi aussi. Ouais. Mais comme tu le sais, la vie de papa, c'est plus dur, c'est plus difficile de s'organiser. Il faut prévoir les choses en amont. D'ailleurs, moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai plein d'interviews prévues en avance.
Ouais, moi aussi. Alors de plus en plus, et ça m'arrange bien parce que en plus d'être passionné par le podcast et par le sport, j'ai aussi un entre guillemets vrai métier à côté, et malheureusement les journées font pas plus de 24 heures. Donc je préfère avoir des interviews qui se programment à l'avance et ne pas être à court quand il s'agit de diffuser mes épisodes. Donc là, pour les auditeurs du podcast Dans les vestiaires, vous allez peut-être un peu souffrir parce qu'en ce moment c'est un petit peu en dents de scie, mais en tout cas je ne vous oublie pas, j'ai quelques interviews qui arrivent et je vais pouvoir vous organiser tout ça de la plus bête des manières pour rester sur un jour de publication régulier toutes les semaines.
Ah cool. Bon, trêve de papotage. Comme tu sais, sur ce podcast, la tradition, c'est la fameuse première question que tu connais très bien, qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Et tu as dit que tu étais plutôt du côté des gourmands et que tu étais plutôt du genre à courir pour être le premier au dessert ou sur le buffet. Mais est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as découvert le sport? Est-ce que tu faisais du sport avant de faire du triathlon?
Ouais, alors je faisais du sport avant. Mon père m'a inscrit très tôt au judo. J'avais pas forcément accroché quand j'étais jeune, donc j'en ai fait une dizaine d'années. J'ai dû commencer à 4-5 ans, mais je dirais que c'est pas mon premier vrai souvenir de sport. Parce que c'est ça la question que tu poses à tes invités. Et comme je ne rate jamais un de tes épisodes, à chaque fois je les écoute en courant et à chaque fois je me dis, tiens, si un jour je passe chez Bart, je sais ce que je vais lui répondre. Donc j'ai déjà travaillé ta question.
Parfait, j'attends la réponse.
Mon premier souvenir de sport, il doit dater de mes toutes premières vacances avec mes parents. Donc je devais avoir, mais quoi, un an. Et mon père étant d'origine sicilienne, on allait en Sicile quand j'étais petit. Et mon tout premier souvenir de sport, il date de là. Quand on était en vacances en Sicile, on allait plonger avec mon père. On faisait de l'apnée. Et quand j'étais tout petit, je ne plongeais pas encore, mais lui m'emmenait dans l'eau, il me faisait me baigner dans l'eau, et lui après partait plonger, chercher des oursins pour ma maman et moi. Et voilà, c'était ça mon tout premier souvenir de sport, c'est quand mon papa allait plonger, faire du sport, et moi je barbotais à côté de lui.
Attends, donc il avait un harpon, un masque et un tuba, et il faisait ça sans bouteille ?
Ouais, non, il avait pas d'harpon, il avait un poignard, un masque et même pas de tuba, vraiment à l'ancienne. Il a grandi en Sicile, il a grandi dans l'eau, et donc quand on était en vacances, et ben à chaque fois c'était le retour aux sources.
C'est dingue parce que j'ai un souvenir très similaire. Le parrain de ma mère s'est marié avec une femme antillaise et son gros kiff c'était de faire de la pêche au harpon et de faire de l'apnée. Et du coup, des fois, j'allais avec lui quand j'étais tout jeune. Franchement, je devais avoir 5-6 ans. Je venais à peine de nager, d'apprendre à nager. Je partais avec mon masque et mon tuba et je le regardais descendre à 12 mètres avec le harpon, se rapprocher de certains poissons. Et paf, il tirait. Et moi, j'avais le plaisir après derrière de tenir le panier avec toutes les victuailles. Et on revenait comme des soldats qui revenaient de la guerre. Et sur la plage, les gens se jetaient sur nous pour voir tous les poissons qu'on avait pêchés et qu'ils allaient bien pouvoir nous cuisiner.
Ben voilà, c'est notre cinquième point commun. Je pense que nos auditeurs vont pouvoir commencer à compter les points là.
Et on vous rassure, nous sommes deux personnes très différentes. Toi, tu es au Luxembourg, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Ça fait 13 ans maintenant que j'ai atterri au Luxembourg avec femme et enfant.
D'accord, ok. Bon, juste avant ça, t'as mentionné tout à l'heure que t'avais rencontré un triathlète du qui était passé sur le podcast. Il me semble qu'il est rouennais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qui est ce triathlète et comment est-ce que tu l'as rencontré? Et si c'était à Rouen par hasard?
Eh ben, c'était à Rouen. C'était Francky Batelier. Et effectivement, c'est avec lui. Enfin, je dirais pas que c'est avec lui que j'ai fait mes premières armes en triathlon. C'est plutôt lui était déjà dans le club du Rouen-Tri. Et c'est quand j'avais 16 ans, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai découvert le triathlon. Il nageait dans une ligne d'eau un peu plus loin que la mienne parce que moi j'ai commencé dans la toute première ligne d'eau des débutants et finalement sur la fin j'arrivais à nager dans sa ligne. C'était plutôt ma fierté d'avoir monté 3-4 lignes à l'entraînement. Mais pour répondre à ta question, donc je le disais, mon père est d'origine sicilienne, mais il s'est installé avec ma mère en Sicile avant que je naisse. Je suis né et j'ai grandi en Normandie, et puis donc à Rouen, là où j'ai rencontré notamment Francky Batelier, mais aussi d'autres triathlètes fameux. Et puis après, j'ai vadrouillé jusque Paris, l'Italie, avant d'arriver au Luxembourg il y a 13 ans.
D'accord, ok. T'es passé par où en Italie ?
Je suis passé par Milan.
D'accord. Et du coup, attends, tu dois parler des dizaines de langues.
Des dizaines, non, on va pas exagérer, non. Je me rends compte de plus en plus que je perds beaucoup mon anglais, donc je le mettrai plus au niveau des langues que je maîtrise parfaitement bien, mais sinon je suis bilingue français-italien. Je parle en italien à mes enfants d'ailleurs. Et puis je balbutie quelques mots de luxembourgeois. L'allemand, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et mon épouse étant d'origine malgache, donc de Madagascar, je comprends un peu les conversations malgaches et j'essaye de parler un petit peu quelques mots pendant les réunions familiales.
C'est, il vient de là ton amour de la langue française et du parler. En fait, finalement, tu es un amoureux des langues au général. Et du coup, c'est pour ça que tu es si bavard et que tu voulais faire un podcast. Je t'ai démasqué.
C'est ça, exactement. Mais voilà, on se connaît un petit peu en dehors et c'est vrai que, désolé pour le bruit, on se connaît un petit peu en dehors. Et c'est vrai que j'aime beaucoup parler et même dans mes mails et autres, j'ai du mal à faire des comptes rendus très concis.
Mais c'est ça qui fait la beauté de la langue, et en tout cas tu manies l'art de la parole avec perfection. Et d'ailleurs, pour situer, moi j'étais très surpris effectivement la première fois que je t'ai rencontré avec ta fille, et que je pense qu'en l'espace de 10 minutes tu lui as parlé à la fois italien et anglais et français. J'étais un peu surpris, je me suis dit, c'est qui ce type? Est-ce qu'il veut m'impressionner pour me faire croire que il est abonné chez Babel ou chez English Academy? Mais en tout cas, j'étais très impressionné par ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en triathlon, vu que c'est le virus que tu as depuis très longtemps, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton track record, si on peut l'appeler comme ça, les courses que tu as faites, quelques temps, et puis un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui?
Bah écoute, je n'ai vraiment pas un track record à la hauteur de celui de Francky Batelier ou de Cédric Fleurton, qu'on a eu l'occasion d'avoir chacun sur notre podcast respectif. J'ai commencé, je te l'ai dit, j'ai commencé à 16 ans, j'ai commencé par nager, par courir, par faire du vélo. Au niveau des choses dont je suis assez fier, bah disons que au niveau semi-marathon, je dois avoir un meilleur temps, et c'était au semi-marathon de Luxembourg, autour d'une 20. Bon, pour ceux qui connaissent Luxembourg, c'est un petit peu vallonné. J'avais à peu près les mêmes temps quand j'étais sur des distances assez longues en triathlon.
D'accord.
Je me préparais en même temps sur des distances Ironman auxquelles je n'ai pas pu participer en raison de problèmes de santé, mais j'étais sur en évaluant la durée à laquelle j'aurais pu m'aligner, on était autour de un petit peu en dessous de 10 heures. Et puis voilà, j'ai pratiqué jusqu'aux 3/4 de la distance Ironman, et c'était au France de longue distance à Belfort en 2009. Avant ça, j'étais au championnat du monde de longue distance à Lorient, et voilà, c'est parmi mes plus beaux souvenirs, et je me suis bien fait plaisir sur toutes les distances sauf la distance Ironman.
D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'as pas pu faire l'Ironman?
Parce que en pleine prépa, j'ai développé des petits problèmes de santé, enfin en l'occurrence des problèmes de vue. Je suis passé d'une acuité visuelle qui était déjà pas très bonne, mais avec les lunettes, j'avais 80% d'acuité visuelle, même avec correction, moins de 20%. Donc il était un petit peu difficile de continuer l'entraînement sur le vélo. Même à un mois d'une course, c'était beaucoup trop dangereux de s'aligner. J'avais plus une acuité visuelle assez correcte pour ne pas risquer un accident en vélo. Et puis partant de là, en ayant fait un an d'entraînement avec des semaines quasiment à 30 heures d'entraînement de sport, la motivation a très sérieusement baissé, et j'ai pas continué non plus l'entraînement en natation et en course à pied. Mais ce n'était que pour quelques années, puisque depuis 2 ans, on a réussi à trouver une solution à mes problèmes de vue après une greffe de cornée, après d'autres traitements. Avec correction, je suis revenu à 100% d'acuité visuelle, et je me remets dans le triathlon maintenant.
Ah ben c'est merveilleux, tu vois, une histoire de santé qui se termine bien, ça donne de l'espoir. Ça me fait une petite parenthèse pour féliciter tout le corps médical français, parce que voilà, ils font des exploits. Ouais. T'étais presque aveugle finalement, si je comprends bien, t'avais presque perdu la vue et tu l'as retrouvé, donc ça montre bien que les médecins français et européens, je sais pas si tu t'es fait opérer au Luxembourg, mais en tout cas c'est nos voisins, nos frères de cœur, ça montre bien qu'on peut faire des exploits, donc c'est une très belle histoire qui donne chaud au cœur, en tout cas Mano, ça me fait un plaisir de l'entendre.
Ah, merci. Pour répondre à ta question, je me suis fait opérer en Allemagne, mais pendant 10 ans, j'ai vadrouillé entre
les médecins. C'est nos copains aussi.
Ouais, en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, un peu partout. Et juste pour compléter, par rapport à un épisode que tu as déjà fait avec Alexis Incancan, qui lui est devenu handicapé d'un seul coup après un accident. En fait, moi, mon problème, ouais, il a été brutal, mais ça a été sur quelques semaines, en fait. Donc c'est un peu, si tu veux, au contraire de quelqu'un à qui il arrive un accident et il perd un ou des membres. Moi, c'est venu en quelques semaines, et c'est en regardant en arrière que tu dis, ouais, effectivement, là je suis à 20% d'acuité visuelle, c'est juste plus possible de vivre ou de faire du sport. Mais si tu veux, ça s'est quand même fait assez progressivement, et la reprise aussi. Ouais.
Bah attends, pour moi le traumatisme est le même, hein, que ça soit effectivement sur un accident de chantier comme Alexis, que je salue au passage, un autre triathlète rouennais fantastique, ou effectivement sur quelques semaines. Tu vois, c'est pas pour moi le traumatisme, il est aussi important et il est aussi douloureux. Donc moi, je te félicite d'avoir su rebondir d'une telle manière, en tout cas, et ça me fait plaisir de l'entendre. Et du coup, aujourd'hui, quels sont tes prochains défis, Armano? Je vois que sur Strava et sur Instagram, on voit des photos tous les jours que tu t'entraînes. On a des comptes rendus tous les jours de tes entraînements. Que prépares-tu de beau?
Bah, écoute, le plan, c'était 2020, retour au triathlon avec quelques distances courtes en début d'année, donc là, mai, juin. Bon, on connaît la situation actuelle, tout est remis en cause, donc ce sera pas pour ce début d'année. J'avais prévu de monter sur distance Half Ironman en fin d'année. Là aussi, c'est un petit peu chamboulé. Malgré tout, je continue l'entraînement et là, je profite d'avoir le micro pour pousser mon petit coup de gueule. S'il vous plaît.
Vas-y.
S'il vous plaît, restez chez vous. Quand vous voyez que même les sportifs pros, pour qui le sport, c'est leur gagne-pain, ils ne sortent pas, ils restent chez eux. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes sportif, faites pareil. Moi, la seule chose que je fais, c'est faire mon entraînement de home trainer quotidien, une heure et demie, et puis je descends du home trainer et je fais un semblant de transition, je mets les baskets et je fais mon petit tour d'un kilomètre autour de chez moi, une fois juste pour travailler la transition. De toute façon, c'est pas maintenant qu'on va faire des entraînements de malade, c'est pas non plus maintenant qu'on va pouvoir s'entraîner pour s'aligner dès juin, juillet, quand les compétitions vont reprendre, parce que je pense pas qu'elles vont reprendre de si tôt, et que même si elles reprennent, le niveau sera pas du tout celui qu'il aurait dû être en saison normal. Donc, pour répondre à ta question, mes objectifs cette année, c'était du court en début d'année et du Half Ironman en fin d'année pour retourner sur Ironman en 2021. Et ben, disons que je vais peut-être passer directement à la case Ironman en 2021.
Ok, d'accord. Bon, bah oui, c'est pas une mauvaise chose non plus. Hein. Tu peux, ton corps a l'expérience, il connaît la charge, donc il faudra bien en découdre un jour ou l'autre avec cette distance.
Exactement.
Donc, pas besoin de compétition avant si l'entraînement a suivi selon moi. Bon, après, voilà, les puristes me taperont sur les doigts, mais en tout cas, si je t'encourage fortement à y aller et à accomplir, c'est un petit rêve quand même. Ça te semble un peu loin maintenant, l'époque où ta santé t'a empêché d'y aller finalement.
Ça me semble.
C'est un peu une revanche sur la vie.
Ouais, ça me semble à la fois loin et à la fois tellement proche. Tu vois, cette année, on fête aussi nos 20 ans de vie commune avec mon épouse et je me disais, mince, j'ai l'impression que c'était hier. Et pour le triathlon, c'est pareil. Évidemment, je me souviens des années 2008, 2009, 2010 et à chaque fois que je fais du sport ou que je rencontre des copains qui sont sportifs, j'ai toujours cette petite pensée et j'en parle très souvent. Évidemment, je n'ai plus le même niveau parce que, on n'a pas le même niveau d'entraînement ni le même niveau de récupération quand on a 30 ans ou quand on en a 40. Malgré tout, ça reste un rêve et depuis que j'ai découvert le triathlon à 16 ans, je me dis à chaque fois, et à chaque fois je décale de 5 ans parce que j'aime bien les chiffres ronds, je me dis allez, à 20 ans j'irai à Hawaï. Bon, finalement ce sera à 25. Bon, finalement à 30. De 30 à 40, j'ai pas fait beaucoup de triathlon, donc j'avais déjà fait une croix dessus, mais je m'étais dit c'est pas grave, ce sera à 40 ou à 45. J'irai à Hawaï un jour, mais pour aller à Hawaï, pour les triathlètes qui le savent, il faut se qualifier. Et pour se qualifier, il faut faire ça sur une distance Ironman. Donc, de toute façon, il va falloir passer par la case distance Ironman.
Ouais. Alors, et puis je précise pour les auditeurs qui ne sont pas familiarisés avec le triathlon, pourquoi on dit Hawaï, pourquoi c'est si mythique dans le triathlon, c'est tout simplement que là qu'a eu lieu le premier Ironman historique, et c'est là depuis que tous les championnats du monde d'Ironman sont, et que du coup il faut se qualifier et gagner des points sur la Ligue Ironman, donc faire des triathlons sur la distance Ironman ou sur la distance Half Ironman pour accumuler des points. Donc finalement, ceux qui y vont, moi c'est un peu ça que je trouve quand même un petit peu dommage dans ce système là c'est que on peut être mauvais, mais si on en fait 10 dans l'année, on peut se qualifier parce qu'on accumule les points au fur et à mesure. Dis-moi si je me trompe, Herman.
Ouais, j'attendais que t'aies fini de parler, mais ouais, je vais te corriger. En fait, tu as le système de points pour aller au championnat du monde, ça c'est valable pour les professionnels. Donc les professionnels, ils peuvent accumuler des points. Déjà, c'est que sur les courses à label Ironman, parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le triathlon, il y a deux fédérations. Il y a la Fédération internationale de triathlon et puis il y a la fédération dite Ironman. Donc, pour les pros, sur les courses Ironman, ils font des points et ça leur permet de se qualifier, enfin, ça leur permet d'aller au championnat du monde. Pour les amateurs, donc les non-professionnels, ceux qui n'ont pas une licence professionnelle, il faut faire une course distance Ironman ou une course distance 70.3 en Chine, certaines qui sont qualificatives pour le full, et être parmi les meilleurs. Et sur chaque compétition de distance Ironman, il y a ce qu'on appelle des slots, donc des places par catégorie d'âge, et souvent c'est 2 ou 3 par catégorie d'âge, donc il faut être parmi ces 2 ou 3 premiers. Alors souvent, il y en a qui ont déjà leur slot, donc qui prennent pas, et du coup, c'est plus les 2 premiers, mais ça peut être jusqu'au 3e, 4e, 5e, etc. Et voilà, donc ça, c'est le système de qualification. Et puis, si vous avez la chance d'être résident américain, comme pour les grands marathons comme New York, Chicago ou autres, il y a aussi un système de loterie ou un système de charity. Donc vous pouvez soit payer très cher pour être sûr d'avoir un dossard, soit si vous êtes américain, vous pouvez participer à la loterie et vous pouvez avoir la chance de gagner un dossard. Et c'est pour ça que, pour ceux qui connaissent déjà Hawaï et pour ceux qui connaissent pas, je vous encourage à aller regarder un petit peu les replays sur YouTube. C'est vraiment des belles courses et les Américains font ça super bien, en tout cas les replays YouTube. C'est pour ça qu'on voit les meilleurs mondiaux qui gagnent Hawaï en un peu moins de 8 heures et puis qu'on voit les derniers qui passent la ligne en 16, 17, 18, 20 heures parfois. Parce que même s'il y a des barrières horaires, les gens peuvent rester sur le parcours et finir. Et je crois qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit, pour ceux qui ne connaissent pas le triathlon, et en particulier l'Ironman, c'est les distances. Donc juste pour situer, les distances, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo, et 42 km un marathon à la fin, et tout ça évidemment enchaîné, pas en attendant un jour entre les deux.
Ok, bah écoute, merci pour ce petit récap. Effectivement, je pensais que le classement à points était qualificatif. Pardon, mais ouais, en fait, il est qualificatif pour les AWA, mais bon, on va pas rentrer dans ce degré de détail là. C'est compliqué. Et écoute, là, ça te donne envie tout ça parce que effectivement, moi, j'ai fait 2 half et un triathlon L. Je suis jamais allé sur la distance, mais ça ne saurait tarder, je le ferai au moins une fois dans ma vie. Hein. Je pense que là, en ce moment, je suis un petit peu trop lourd physiquement et j'ai pas le coffre. Mais je te rejoindrai avec grand plaisir, même si je ferai pas ton temps, ça c'est une certitude. Toi qui es un passionné de l'entraînement, à quoi ça ressemble une préparation à Ironman? Et comment ça se prépare? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Ça ressemble à beaucoup de papiers grattés ou beaucoup de fichiers Excel qui sont très longs et qu'on retravaille dans tous les sens parce que c'est déjà en termes de volume d'entraînement, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'abnégation. Et si vous avez une famille et que vous voulez vous lancer dans les Ironman, je vous déconseille très fortement. Autant en termes de natation et de course à pied, on peut toujours réussir à trouver une heure par-ci, une heure par-là. Autant dès qu'on intègre le vélo, ça devient très chronophage. Et puis quand on veut s'aligner sur des distances comme ça, à moins d'être extrêmement doué, et j'en connais des gens qui sont extrêmement doués, qui avec très peu d'entraînement arrivent à s'aligner sur des distances pareilles et à performer, mais tout le monde n'est pas comme ça. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'abnégation. Pas uniquement en termes d'entraînement, en termes de temps passé à faire du sport, mais aussi en termes d'hygiène de vie et en termes de préparation, de logistique pour gérer tout ça, si en plus il y a de la famille et ou un travail. À quoi ça ressemble? Eh ben écoute, ça ressemble à comme tous les entraînements, tous les plannings d'entraînement pour tous les sports. Ça ressemble à d'abord une phase de pré-préparation, comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire on commence à se mettre en condition, on recommence à découvrir les bienfaits de l'endurance. Si on parle de course à pied, ça veut dire des séances pas forcément longues, mais très lentes, qui peuvent paraître extrêmement longues. Et puis après, une phase de montée en charge, où on va commencer à travailler dans les 3 sports, où on va travailler de plus en plus sur la vitesse, sur la distance, sur la résistance, sur la puissance, sans oublier l'endurance, et en essayant de combiner tout ça pour avoir à la fin un planning qui rentre dans les autres plannings familiaux et professionnels et qu'on n'arrive pas fatigué le jour de la compétition.
Ouais, t'es quand même vachement souvent aussi amené à pratiquer 2 sports en une journée, non? J'imagine.
Écoute, il y a des gens qui arrivent à s'entraîner que dans un sport une fois par jour. Il y en a, et mais sinon il y en a d'autres qui sont obligés de doubler ou de tripler. Alors je rassure tes auditeurs, hein, ça veut pas dire faire avoir un boulot et puis faire 4 heures de course à pied le matin et 4 heures de vélo le soir et puis essayer de nager le midi. Non, ça veut dire parfois simplement faire une heure de course à pied ou une heure de natation le matin avant d'aller bosser, et puis le midi essayer de faire une petite séance de muscu ou de préparation physique généralisée, cette fameuse PPG, et puis si on a le temps, remettre une séance le soir, soit si on a un peu plus de temps, une heure, deux heures, trois heures de vélo, surtout en été, ça passe bien, ou alors une bonne séance de natation.
Ouais. Ok, ouais. Et c'est vachement intéressant tout ça, mais comment est-ce que toi tu gères du coup avec ton agenda de père de famille et de cadre, comment est-ce que tu t'organises concrètement dans ta semaine?
Écoute, moi j'ai une chance vraiment énorme et je voudrais lui rendre hommage, même si elle écoute pas les podcasts, mais c'est dommage. J'ai une femme magnifique, une épouse adorable et très compréhensive, et je pense aussi qu'elle est très intelligente parce qu'elle a dû comprendre très tôt que si j'avais pas ma dose de sport quotidien, je devenais exécrable. Donc on essaye de s'organiser comme ça. Moi, pour l'instant, je suis pas, je l'ai dit, je reprends l'entraînement. Je me suis pas remis en quête de l'Ironman tout de suite. Ce sera pour l'année prochaine. Donc pour l'instant, je reste sur un entraînement par jour. Et ce qui me convient bien, c'est de faire ça sur la pause du midi. Donc j'ai la chance d'avoir un job où je peux organiser un petit peu mon temps comme je le veux. J'arrive souvent très tôt le matin au bureau. Je prends deux heures et demie le midi pour faire une bonne séance telle que je l'ai préparée. Et puis, je repars un peu plus tard le soir. Et dès que j'arrive à la maison, je consacre du temps aux enfants, à mon épouse. Et quand on a fini de dîner, eh bien, je me mets sur mes podcasts.
Ok, ça marche. Bah, écoute, ça me fait plaisir d'entendre enfin un sportif ou même quelqu'un dans un podcast qui met en lumière son conjoint ou sa compagne, parce que tout simplement, en fait, moi je pense vraiment dans la vie qu'on peut pas faire les choses tout seul, et qu'aujourd'hui son plus grand partenaire de vie, et c'est la personne avec qui on a choisi de partager son lit et de partager son toit. Et tu vois, je pense pas qu'on puisse arriver à de grandes choses si on n'a pas derrière soi quelqu'un qui nous soutient, qui nous comprend et qui nous fait pas perdre de l'énergie négative. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses, tu me diras juste après, mais moi j'écoute beaucoup de podcasts un peu d'entrepreneurs, de créatifs, de gens qui lancent leurs projets, et ils rendent jamais honneur finalement à leur compagne, à leur conjoint, alors que finalement, tu vois, quand tu, si grosso modo, hein, on peut dire que tu dors 8 heures, tu dors 8 heures, tu travailles 8 heures et tu passes 8 heures un petit peu à faire d'autres choses, sur ce temps où tu fais d'autres choses, tu vois quand même beaucoup ton conjoint ou ta conjointe. Et si tu perds de l'énergie bêtement, ou si c'est vraiment une perte de temps et c'est vraiment quelque chose qui te rend pas heureux, c'est vraiment contre-productif. Donc merci d'avoir mentionné ta femme. Et en plus, j'ai vu que les triathlètes, il y avait un énorme taux de divorce chez les triathlètes. Je sais pas si tu le savais.
Je le savais pas, mais ça ne m'étonne pas, parce que quand tu vois la charge d'entraînement qu'on est obligé de se mettre, comme je viens de te dire, moi, en 2009-2010, quand je me préparais pour l'Ironman,
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je suis monté jusqu'à 40 heures d'entraînement par semaine. Et là, je te parle que d'entraînement effectif. C'est-à-dire, j'avais 15 heures dans l'eau, 20 heures sur le vélo et 5 heures sur la course à pied. Enfin, plutôt l'inverse. 5 heures dans l'eau, 15 heures en course à pied et autant sur le vélo, quoi. Sans le soutien de mon épouse, sans l'ouverture d'esprit de mon épouse et le fait qu'elle comprenne que c'était mon objectif à plus ou moins court terme, j'aurais jamais pu espérer pouvoir faire ça.
Ouais, c'est clair, il faut du soutien. Quand tu me dis le temps, 35 heures à 40 heures d'entraînement, ça me paraît tellement énorme. Mais comment ça se fait qu'il y en a qui arrivent à terminer un Ironman en s'entraînant seulement aller entre 12 et 15 heures? Pourquoi est-ce que tu avais choisi de t'entraîner autant? C'était pour la perf?
Alors, c'était pour deux choses. Un, parce que en termes de longue distance, je partais quasiment de rien, et donc il fallait que j'assimile la charge d'entraînement, mais pas bêtement, pas trop vite. Donc, je suis monté progressivement en charge pour atteindre quasiment ces 40 heures par semaine. Et puis, pour une autre raison, effectivement, c'était la performance, parce que je savais que je pourrais pas tenir ce rythme en famille pendant 10 ans, et mon objectif c'était d'aller à Hawaï. Donc, je m'étais donné 2 à 3 ans pour y arriver, et pour y arriver en 2 ou 3 ans, et ben, il fallait que non seulement j'accumule la charge, que j'assimile la charge d'entraînement, mais que cette charge d'entraînement, elle soit suffisamment bien placée et intelligemment placée pour que je puisse avoir une performance à la fin. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, pour aller à Hawaï, il faut faire partie des 2 ou 3 meilleurs de ta catégorie sur la course sur laquelle tu t'alignes. Je m'étais donné 2 possibilités de test, donc 2 ans, parce que j'envisageais pas de faire 2 Ironman dans la même année, sauf l'année où j'aurais été à Hawaï. Voilà, donc il fallait absolument que j'arrive à trouver un compromis entre charge d'entraînement et performance. Et ça passait par des grosses semaines d'entraînement. Attention, hein, quand je disais 40 heures d'entraînement, j'ai bien dit que c'était 40 heures effectives, donc on compte pas le temps pour aller dans les vestiaires à la piscine, on compte pas le temps pour aller sur la piste quand c'est des séances de piste à faire, mais ça veut pas dire que je me mettais 40 heures à la puissance maximum. Non, non, non. Je suis un adepte, et la personne qui m'accompagnait à ce moment-là est un adepte de l'endurance. Donc on travaillait beaucoup en endurance, ce qui fait qu'on faisait pas mal de PPG, pas mal d'endurance en course à pied, pas mal d'endurance en vélo, avant de travailler dans la puissance.
Ouais, bah effectivement, ça devient de plus en plus à la mode de finalement faire du volume, mais à des rythmes très doux. Je l'entends de plus en plus, bah, à la fois sur ton podcast, mais sur d'autres podcasts de course à pied. Et j'ai l'impression que finalement, pour vraiment bosser l'endurance fondamentale, il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup de fractionner, de beaucoup d'augmenter la vitesse ou le rythme cardiaque, et qu'il fallait vraiment rester dans les zones basses 4 et 5, quoi, j'ai l'impression.
Ouais, tout à fait. En tout cas, ça, c'est mon approche du sport.
Ok. Et tu vois, en plus, tu as mentionné effectivement le temps effectif. Et c'est vrai que quand on fait du triathlon, alors moi, je me suis entraîné jusqu'à 10, allez, entre 10 et 15 heures par semaine à un moment. Je trouve que c'est quand tu augmentes cette charge que tu te rends compte à quel point il y a toute une partie d'entraînement invisible. Que ça soit effectivement la planification, que ça soit la nutrition, que ça soit les massages, la récup et tout. Toi, qu'est-ce que tu avais mis en place sur l'entraînement invisible? Parce que finalement, tu es quasiment obligé des fois de faire autant en entraînement invisible qu'en entraînement normal, quoi.
Ouais, autant si ce n'est plus. Comme je te disais, j'ai toujours une épouse qui était très compréhensive, et du coup, on arrivait à se mettre d'accord sur des plannings. Moi, j'ai la chance, là où j'habite au Luxembourg, d'être à la campagne. Donc, pour tout ce qui est entraînement vélo, entraînement course à pied, j'ai qu'à sortir de la maison et je suis déjà sur mon terrain de jeu, sur mon terrain d'entraînement. Au Luxembourg, c'est à la fois très vallonné, mais à la fois, de là où j'habite, je fais 10 km de vélo et j'ai une longue ligne droite qui fait 60 km aller, 60 km retour. Donc, je pourrais même faire des séances d'entraînement de 120, 150, 200 km que du plat, si je le souhaitais, sans aller chercher très loin. En plus, c'est parfois venteux, donc ça permet aussi de travailler en conditions venteuses. Pour Hawaï, ça marche bien. Voilà, donc ce que j'avais mis en place, c'était déjà d'avoir un plan d'entraînement quasiment au mois, et comme ça on visualisait bien avec la famille comment est-ce qu'on allait s'organiser, et puis m'entraîner vraiment le plus proche de chez moi pour diminuer au maximum le temps de trajet, le temps perdu. La piscine est un peu plus loin, mais bon, on arrivait à s'organiser. Et puis j'avais aussi une excuse, c'est qu'à l'époque, mon fils, qui maintenant a 22 ans, à l'époque il en avait une dizaine d'années, il nageait avec moi parce qu'il faisait aussi du triathlon, donc ça me donnait une excuse pour aller à la piscine. Je disais à mon épouse, écoute, je m'occupe du petit ce soir, je le ramène à la piscine. Ça comptait pas vraiment dans mon temps de sport à moi. Et puis, j'étais un petit peu en attente au niveau professionnel, ce qui fait que je travaillais pas, et donc ça m'a permis aussi d'augmenter sérieusement ma charge d'entraînement.
Ok, merci Armano. On a beaucoup parlé de sport. Là, j'aimerais un petit peu parler de podcast et de un petit peu de ta passion pour la passion qu'on a en commun pour le podcast. Il me semble que, comme tu l'as dit dans l'intro, tu as commencé beaucoup plus jeune que moi. Est-ce que tu te souviens à l'époque s'il y avait beaucoup d'autres podcasts de sport et de course à pied?
Alors écoute, comme je te disais, moi j'ai découvert le podcast dans au début des années 2010, mais je me suis lancé qu'en 2014. Je me suis lancé en 2014 et pour les adeptes du podcast, en rejoignant la famille Nipcast, qui était la famille Niptech à l'époque. Et quand je me suis lancé, eh ben écoute, en tout cas dans le podcast français, il n'y avait pas d'autres podcasts de sport. Mince, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc il n'y avait pas d'autres podcasts de sport. Il y avait des podcasts de sport francophones, majoritairement canadiens, mais pas dans le monde français en tout cas.
D'accord, ok, ouais, c'était vraiment encore une niche. Là, tu vois que ça a vraiment beaucoup explosé. Hein. Là, on peut pas dire l'inverse, mais l'année 2009 a vu la naissance de beaucoup de podcasts de sport,
donc,
notamment
2009,
des podcasts. J'ai dit quoi ?
J'ai dit 2009, mais ouais, ça va aussi.
Ah, pardon. Bah oui, l'année 2019 a vu apparaître beaucoup de podcasts de sport. Comment est-ce que t'analyses un petit peu cette évolution globale du podcast, sachant que le podcast de sport est encore largement en dessous de podcasts natifs, mais sur d'autres sujets, quoi.
Bah écoute, on en parle souvent tous les deux. Hein. Moi, je crois beaucoup aux médias podcasts déjà parce que, à la différence de la radio, tu choisis toi-même vraiment l'émission que tu veux écouter. Alors, je serais presque tenté de dire au moment où tu veux, pour autant que le podcasteur que tu suis, enfin le ou les podcasteurs que tu suis, ils aient déjà traité le sujet que tu recherches. Mais en tout cas, ça me fait vraiment penser à de la radio à la demande plus que à une radio qui t'impose un programme et souvent de la publicité. Donc moi, je crois beaucoup aux médias podcasts en général, pas que aux médias podcasts sport. Et puis effectivement, on peut pas dire le contraire, ça a vraiment explosé sur 2019. Et je pense qu'en 2020, les podcasts et surtout les podcasts de sport vont encore connaître une explosion impressionnante. Alors. Après, avec le contexte dans lequel on est actuellement sur ce premier semestre et le confinement, je suis pas certain que ça va, que les écoutes de ce podcast vont augmenter autant qu'elles devraient, mais je suis persuadé que quand on sortira de confinement, eh bien, les stades vont réaugmenter, les gens vont se remettre à écouter des podcasts parce qu'ils les écoutent souvent pendant qu'ils voyagent, pendant qu'ils font du sport, pendant qu'ils cuisinent, enfin bref, au moment où, en ce moment, on se concentre plutôt, je crois, sur faire attention à la santé et à travailler, à s'occuper des enfants quand on en a. Voilà.
Ouais, ben c'est sûr que là, avec la situation du confinement, moi j'ai beaucoup d'amis podcasteurs comme toi avec qui j'échange très régulièrement sur des groupes et là, alors je suis vraiment pas le plus à plaindre, donc je remercie vraiment les auditeurs d'écouter et d'être là parce que vous êtes fidèles au rendez-vous et ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, bon, ça montre peut-être que le podcast de sport n'est pas encore complètement mainstream mais j'ai certains amis podcasteurs, oui, qui ont perdu presque 50 à 60% de leur audience en l'espace de quelques jours suite au confinement. Donc, on voit que c'est pas trop un média finalement qui est adapté chez soi, ou en tout cas que les gens écoutent peu chez soi. Même moi, je reçois beaucoup de messages d'auditeurs et d'auditrices qui me disent qu'ils écoutent pendant leur séance de sport. Donc, c'est sûr que tous les footings et la séance de vélo en ce moment, c'est un petit peu compromis. Aussi, le podcast, c'est un moyen, voilà, comme tu l'as dit, qui correspond très bien au transport en commun, la voiture, là voilà, on est un petit peu limité, donc c'est sûr que ça chute. Moi, je suis un petit peu attristé parce que je sais de sources sûres que des plateformes comme YouTube et Netflix sont en train d'exploser et ça confirme un petit peu mon présage, tu vois, quand je discutais avec quelqu'un qui travaille chez RMC Radio et il me disait on est concurrent, et je lui ai dit non, on n'est pas concurrent, on devrait être allié. Et il me dit pourquoi? Je lui dis le vrai concurrent, il s'appelle Netflix, il s'appelle YouTube, et parce que voilà, les gens choisissent de nous écouter, choisissent d'aller sur une application de podcast, d'écouter un podcast plutôt que de se mettre devant Netflix et de laisser défiler les épisodes et de plus vraiment choisir ce qui leur arrive. Donc Donc effectivement, le podcast vit une période un petit peu dure, mais comme tu l'as dit, je pense que une fois que le confinement sera terminé, je pense qu'aussi avec les JO, je pense que le podcast de sport va vraiment connaître son apogée. Bon, malheureusement, voilà, je sais pas pour toi, tu le sais, hein, mais et je pense que toi aussi, mais tu misais un petit peu sur les JO et sur le fait qu'elle allait avoir un attrait médiatique un petit peu vers nos sujets. En plus, elle allait avoir la Coupe d'Europe de football. Donc, voilà, tout ça est annulé. Donc, c'est un petit peu dur pour nous, mais je pense qu'on va vraiment connaître notre heure de gloire parce que on a déjà le sport a beaucoup de retard sur d'autres types de podcasts, que ce soit le professionnel, le développement personnel, et aussi parce que, bah, qu'on se le dise, aujourd'hui, les grosses radios squattent un peu les classements et les recommandations. Je vais pas les nommer, mais on connaît les gros médias sportifs. Bon, j'ai nommé RMC tout à l'heure, donc je vais les nommer, mais voilà, il y a ici l'équipe, il y a aussi Eurosport, voilà, et tous ces gros médias, finalement, ces gros médias squattent un petit peu avec leurs replays de leurs émissions, et donc bah c'est difficile pour nous de nous faire notre place, mais je pense que notre heure viendra. Voilà, il faut attendre encore un peu, mais je reste optimiste. Toi, tu disais effectivement que les audiences avaient un petit peu baissé de ton côté. Tu le confirmes là depuis le confinement, ça a chuté.
Ouais, je le confirme aussi bien sur le podcast de Nakan que sur le podcast dans les vestiaires. Je te confirme que ça a chuté. Sur Nakan, il y a un double effet en fait, parce que on était avant en bi-hebdo, on publiait tous les 15 jours, et maintenant on a toujours notre rythme de publier tous les 15 jours un épisode régulier du podcast de Nakan, mais en plus on a un hors-série la semaine où on publiait pas avant, donc effectivement les stats se sont un peu lissées, mais globalement on voit que ça monte beaucoup moins vite qu'avant le confinement et qu'on n'atteint pas les mêmes sommets qu'au moment du confinement. Enfin, avant le confinement. Donc, j'espère que ça va repartir. Sur le podcast dans les vestiaires, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'auditeurs. Donc, ça m'attriste un peu, comme je le dis souvent en introduction, parce que j'y mets vraiment tout mon cœur à l'ouvrage, et ça m'attriste un petit peu de voir que ça peine à décoller. Mais je tiens bon. Et ouais, je te confirme effectivement cette baisse.
C'est vrai que c'est une situation un peu particulière. En plus, sur le podcast, on voit en permanence les chiffres qui montent. Il y a très peu de baisses, en fait, tout simplement. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un auditeur découvre, vu qu'on essaye de faire du bon contenu, il arrive très souvent que un auditeur qui découvre, je sais pas, l'épisode 10, ou qui découvre, bah, comme sûrement c'est le cas aujourd'hui, à l'épisode 40, qu'il écoute derrière tous les autres parce que il a bien aimé, il a été embarqué, et du coup, il va aller chercher les auditeurs. Donc, un nouvel auditeur, finalement, ça va générer peut-être une dizaine, une quinzaine, peut-être parfois plus d'épisodes écoutés. Donc, c'est ce qu'on appelle les effets croissants cumulés. Hein, les mathématiciens connaissent ça très bien. Et là, bah, ça fait un peu bizarre parce que c'est du coup pour nous qui connaissons la croissance en permanence, là, ça s'arrête un petit peu net. Tu nous as parlé du fait que tu avais lancé un nouveau format sur Nakan. J'ai pas eu encore l'occasion de l'écouter. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement et vous dire d'où vous est venue cette volonté de proposer autre chose? Puisque vu que moi, c'est mon premier épisode un petit peu hors série où j'essaie vraiment de proposer un autre type de contenu.
Ouais, bien sûr. Alors, ça a un peu coupé, mais je pense que j'ai bien compris le sens de ta question. En fait, déjà, pour revenir sur l'histoire de Nakan, c'était une rencontre un peu fortuite. Comme je te disais, j'ai commencé le podcast en 2014 avec un podcast qui s'appelait Nip Sport, où on parlait sport en général et objets connectés, déjà à l'époque. Et puis, avec l'équipe que j'avais montée, on n'a pas réussi à tenir la barque très longtemps. L'équipe a juste explosé en vol parce que j'avais commencé avec un très, très gros triathlète qui s'appelle David Lebras, un triathlète amateur qui avait été 4-5 fois à Hawaï et qui, justement, pour revenir sur ce qu'on discutait tout à l'heure, à un moment a dû faire des choix entre continuer sa préparation ou continuer ses passions. Et le podcast ne faisait plus partie du temps qu'il avait à consacrer. Malgré tout, j'avais eu d'autres personnes qui s'étaient fait connaître pour rejoindre l'équipe. Et puis, il y a des gens qui sont partis de leur qui ont changé de domicile, qui ont changé de job, etc. Donc l'équipe a explosé et puis finalement au bout de 2 ans on a arrêté le projet et je le regrette encore maintenant. Je me dis que j'aurais dû tenir parce que déjà j'étais le premier podcast sportif et donc j'aurais pu m'enorgueillir de ça. Malgré tout, quand j'ai arrêté en 2016, j'ai toujours eu envie de reprendre, mais je savais pas trop comment. Et un jour, j'ai navigué sur le web et j'ai croisé le site de Grégory qui tient le blog de Nakan. Et en lui posant une petite question sur un des produits qu'il avait testé, je lui ai rajouté « Est-ce que ça t'intéresserait, que tu as réfléchi au lancement d'un podcast ?» Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, comme ça qu'on a discuté du lancement du podcast de Nakan. Et finalement, en quelques jours, on a monté le projet et on a avancé là-dessus. Tout ça pour dire qu'en fait, le podcast de Nakan, c'est pas mon podcast, c'est notre podcast à Grégory et moi. On avance vraiment,
bien sûr.
On en discute tous les deux, on choisit les thèmes qu'on veut aborder, on met en place un planning éditorial en début de saison et on avance après là-dessus. Et donc la première saison qui s'est achevée en décembre 2019, eh bien on avait déjà réfléchi à ce qu'on pourrait proposer en plus sur la deuxième saison en 2020. Et dans ce qu'on avait réfléchi, on pensait à des épisodes hors série sur la première partie de l'année. C'est des épisodes que produit Greg et qui parle de sa préparation et de la préparation de ses camarades de club vers l'Ironman de Thun en Suisse. C'était anciennement l'Ironman de Zurich qui a été déplacé vers Thun. Donc ça, c'était la première partie des hors-séries de Nakan. Et sur la deuxième partie de l'année, on avait prévu de faire des hors-séries plutôt en mode dossier où parfois on s'occuperait du dopage, parfois on traiterait des sujets comme la préparation mentale du sportif, parfois on traiterait des sujets, on rentrait beaucoup plus dans le fond que nos épisodes bi-hebdo réguliers où là on aborde un thème en particulier par épisode. Bon, avec le confinement et avec l'annulation des courses, du coup le planning va être mis un petit peu va être revu un petit peu, mais en tout cas c'est l'objectif de maintenir, enfin c'est l'idée qu'on essaie d'avoir. Un épisode régulier où on aborde un thème en particulier et dans les épisodes suivants, on répond éventuellement aux questions que les auditeurs nous ont posées. Et puis, un épisode hors série où là, ça va être plutôt soit un épisode sur les préparations de Greg sur des courses, soit sur des préparations de courses que moi, je pourrais avoir, soit des épisodes dossiers avec 2, 3, 4 hors série où on va aborder un dossier en particulier. Et enfin, pour finir de répondre à ta question, qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu lancer du hors série? Qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu évoluer un petit peu dans les productions qu'on voulait faire? C'était tout simplement pour continuer à faire plaisir à nos auditeurs et à leur proposer du contenu un peu différent. Voilà, c'est le même média, c'est le même format, mais d'aborder des sujets autrement. Sur les podcasts réguliers de Nakan, on est Greg et moi, soit juste tous les deux, soit avec un invité. Sur les hors-séries, on ne s'interdit pas d'avoir des invités, et ce qui était notamment le cas sur la préparation de Greg pour l'Ironman de Thun, où là, il produit le podcast avec 3 de ses camarades de club.
D'accord, ok, bon bah tout est beaucoup plus clair. En tout cas, ça donne envie. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, parce que ça a l'air bien cool ce que vous nous préparez. Je crois que je t'ai jamais dit, mais tu sais que la première fois que j'ai écouté Nakan, on se connaissait pas encore, et j'ai cru que tu étais plus jeune que moi à ta voix.
Merci. Alors c'est vrai qu'au téléphone, on me pense très souvent pour une femme ou pour un très jeune enfant, mais non,
c'est vrai.
J'arbore fièrement ma quarantaine et je n'ai pas encore trop de cheveux blancs, donc je l'assume.
Ah bah ok, bon, ça me rassure que je sois pas le seul à avoir eu du mal à mettre un âge sur ta voix, parce que c'est vrai que la première fois j'étais étonné, je me suis dit allez, c'est une équipe, ils doivent avoir mon âge et tout, et la première fois que je t'avais contacté, je pensais vraiment qu'on était de la même décennie, tu vois. Ouais. Alors que bon, finalement on se retrouve très bien, même avec 10 ans d'écart pile poil, donc comme quoi hein, les écarts d'une décennie, c'est pas grave.
Ouais.
On peut très très bien s'entendre et se faire des copains avec plus vieux et plus jeunes que soi. Mais écoute, ouais, c'est très cool tout ça. Et est-ce que tu penses qu'un jour ça serait possible de vivre du podcast? Ou tel que c'est parti.
Mais là, tu me poses des questions auxquelles tu connais déjà les réponses. On en discute déjà beaucoup, tout ça.
Mais j'ai envie que tu partages ton point de vue aux auditeurs, ce qui est intéressant.
Ouais, non, écoute, je suis persuadé, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, moi, je crois beaucoup aux médias podcasts et je suis persuadé qu'il y a de très grandes choses à faire dedans. Pas uniquement dans le podcast sportif en particulier, mais dans le podcast en général. Je suis persuadé qu'il y a de quoi en vivre. C'est peut-être encore un petit peu trop jeune pour l'instant pour pouvoir en vivre bien, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses à faire. On en a déjà parlé et je crois qu'on nourrit tous les deux projets plus ou moins similaires ou qui peuvent se rejoindre. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'effervescence. Je pense notamment à des gens que je suis. J'écoute pas beaucoup de podcasts malheureusement, enfin pas assez. Mais en général, j'écoute les podcasts que quand je fais du sport, parce que je fais déjà pas mal de sport. J'ai déjà pas mal de choses à faire au niveau du boulot, donc je veux pas en plus m'empêcher de voir ma famille et de profiter du temps avec eux. Mais j'en écoute pas assez, mais en tout cas je suis quelques créateurs de contenu et je trouve que ça remue énormément dans le monde du podcast et qu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir en vivre très prochainement.
Ok, tu peux nous dire un petit peu ce que tu écoutes ? Qu'est-ce qui t'inspire en ce moment ?
Qu'est-ce qui m'inspire ? Eh ben depuis quelques mois, il y a un danseur, chanteur, podcasteur qui s'appelle Ntoi, que je trouve super sympa, qui propose deux newsletters, une sur la création de contenu ou sur le développement personnel et une autre sur justement la création de podcast. Et donc lui, il envoie des newsletters okay. quotidiennes. C'est assez facile à trouver, c'est ntoi.fr je crois ou .com son site. Enfin bon, allez voir, il fait pas mal de choses. En ce moment, il s'est lancé dans une série de vidéos aussi et de live Instagram qui rediffuse sur YouTube qui sont très inspirants. Il y a évidemment, le grand ami Bertrand Soulier qui est créateur de contenu, podcasteur, sportif, ancien obèse morbide qui a découvert la course à pied il y a une dizaine d'années et qui depuis ne peut plus s'en passer et qui a il y a quelques années décidé d'allier sa passion pour le podcast et pour le sport en proposant un podcast où justement il raconte son épopée vers l'amincissement et vers son premier marathon. Oui, il s'est offert son premier marathon, donc 42 km le jour de ses 42 ans. Enfin, bref, c'est assez sympa à écouter. Il y a évidemment, mais ça, j'ose même pas le dire puisque tu m'as invité, donc il y a Extraterrien. Et puis, il y en a tellement d'autres. Je pourrais te partager si tu veux ma playlist de podcast.
Allez, ça marche. Et d'ailleurs, j'en profite, comme j'ai pas souvent la chance de demander la question à mes invités, en tout cas. Toi, vu que t'as écouté beaucoup d'épisodes d'Extraterrestres, ça serait lequel si tu devais en recommander un seul, ça serait lequel ?
Un seul. Écoute, j'ai bien aimé celui avec Stéphanie Giguère.
D'accord, ok. Ouais, c'est vrai qu'elle est, c'est un nom qui est pour beaucoup, qui est inconnu, et pourtant, elle a une vision du sport qui est vraiment tellement différente. Et c'était une nana, franchement, c'était une nana incroyable. Franchement, quand je l'ai rencontrée, j'étais subjugué par ce petit bout de femme, puisqu'effectivement, elle est pas très grande, elle est très fine, et en tout cas, j'ai passé un super moment avec elle et j'étais vraiment impressionné de la façon avec laquelle elle parle de son sport, à quel point elle l'a intellectualisé et à quel point on sent qu'elle vit vraiment une passion et que c'est pas du tout un métier pour subvenir à ses besoins. Donc très très bonne recommandation. On arrive un petit peu aux questions de la fin, les fameuses. Je te les pose rapidement parce que je sais que je dois bientôt aller m'occuper de mon fils. Okay. Et du coup, je vais devoir te quitter très rapidement. Mais je te les pose. Réponds du tac au tac, allez. Un petit peu comme à la télé. La première, c'est de savoir quelle est une bonne journée pour toi.
Une bonne journée, c'est une journée où je me lève de bonne heure. J'arrive à dérouler toute ma routine matinale. Et puis après, je vais bien travailler, je vais bien pratiquer mon sport et je vais passer un super moment avec ma famille. Et en ce moment, c'est ce que je fais pendant le confinement parce qu'on vit 24 heures sur 24 les uns sur les autres.
Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ça marche. C'est quoi ton meilleur souvenir de sport ?
Mon meilleur souvenir de sport, en dehors de mon premier souvenir dont j'ai parlé au début du podcast, je crois que c'était un moment où j'ai, pour ainsi dire, découvert la course à pied. Avec mon pote Arnaud, on courait déjà un petit peu, on devait avoir, je sais pas, 14-15 ans, un truc comme ça. Et ses parents, qui étaient de grands coureurs, nous ont proposé de courir un 15 km. Et c'était une très belle expérience partagée avec un très très bon ami qui d'ailleurs est mon témoin de mariage.
Ah, génial. Très belle histoire. À l'inverse, est-ce que tu as un souvenir qu'on pourrait qualifier de pire souvenir?
Bah ouais.
À nous raconter.
Ouais, c'est une semaine avant l'Ironman de Regensburg, donc qui avait lieu le 1er août 2010, et une semaine avant où j'ai décidé que je m'alignerais pas sur le départ de la course à cause des problèmes de vue dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment mon pire souvenir de sport.
Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu souhaiterais nous recommander?
Un film, ça s'appelle Free to Run par Pierre Morat, qui était un des invités qu'on a eu dans le podcast de Nakane. Sans spoiler, il revient sur l'histoire du sport et en particulier l'histoire des femmes dans le sport.
Ouais. Et d'ailleurs, enfin c'est un livre incontournable, je trouve, quand on fait de la course à pied, ouais. Notamment. Il y a plein de concepts effectivement sur la foulée, sur l'histoire du running. C'est vraiment vraiment génial. C'est un indispensable. Il est pas assez souvent cité, je trouve. En tout cas, même si c'est un best-seller maintenant, je trouve qu'il est pas assez cité parce que l'histoire est belle, c'est bien écrit et en plus on apprend des choses vraiment géniales.
Ouais. Et vas-y. Je te rajoute un petit truc à l'image de la question que tu m'as posée tout à l'heure, qui est extrêmement dure, où tu me demandes de recommander un épisode de ton podcast. J'ai envie de te dire que dans tous les épisodes de podcast que moi j'ai déjà enregistrés, j'ai déjà eu des invités vraiment extraordinaires, mais Pierre Morat fait partie de ceux que j'ai trouvé les plus inspirants quand on l'a eu,
parce qu'en
une demi-heure, il arrive à mettre vraiment en avant des points qui sont géniaux et avec une ouverture d'esprit qui est exceptionnelle.
Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a changé la vie?
Dans le sport ou dans la vie?
Allez, les deux, parce que t'es un petit peu contraint en tant que papa marié, tu es un petit peu contraint de citer ta femme que tu as déjà citée tout à l'heure. Alors tu peux lui refaire une fleur et nous dire peut-être nous parler de quelqu'un d'autre.
Allez, bah déjà oui, mon épouse, c'est celle à qui j'ai pensé en premier lieu. Et puis dans le sport. Allez, je dirais pas une rencontre, mais je dirais encore une fois un épisode de podcast que j'ai enregistré la semaine dernière avec un autre Pierre qui s'appelle Pierre Frolla, cette fois-ci, apnéiste français, un autre grand monsieur, un autre grand Pierre.
Ok, génial. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans?
À Hawaï. Et pas en vacances, en train de passer la ligne de ce fichu Ironman d'Hawaï. Dans 10 ans, j'aurai 50 ans, donc si je l'ai pas fait avant, ce sera là.
Ok, génial, génial. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur, Hermano?
Mais tout me fait peur. Et je t'en ai déjà parlé. Tout me fait peur. Le sport, le podcast, la vie, le quatrième enfant qui va arriver. J'ai peur de tout. Et malgré tout, comme je suis papa et comme je veux apprendre la résilience à mes enfants, même si j'ai peur et que j'essaye de pas toujours le montrer, j'essaye de leur expliquer aussi que, bah, par mes actes, parfois, on peut surmonter sa peur et aller de l'avant.
Bah écoute, c'est très très bien dit et on va terminer du coup sur cette question et sur la fameuse dernière de savoir quel est le, même si tu m'en as déjà recommandé plusieurs des sportifs ces derniers temps, on a parlé notamment de Francky Batelier, un super épisode à aller écouter si c'est toujours pas fait, mais quel est le prochain sportif que tu me recommandes d'aller interviewer?
Moi, je te recommande une sportive, c'est Kenza Coutard, que j'ai déjà reçue dans les vestiaires et tu n'avais pas pu être là ce jour-là quand on a fait l'interview. Une jeune voileuse française promise un très, très grand avenir, je pense, et d'une maturité impressionnante.
Ok, bah écoute, je la connais pas du tout, donc ça va être l'occasion et je retiens la recommandation pour de la voile. Mais là, j'ai pas mal d'épisodes de voile qui sortent en ce moment, donc pourquoi pas, ça pourrait le faire.
Ok, mais sinon en apnée, t'as Pierre Frolla, j'en ai parlé tout à l'heure, ou sinon okay. J'ai encore une Karateka aussi qui va sortir cette semaine dans les vestiaires.
Ok, ça marche. Ah oui, je crois que c'est une dénommée Sandy.
Exactement.
Ah, je crois qu'elle est très très cool. Ça, je vais aller écouter sans attendre. Ça peut être vraiment sympa. Écoute, merci beaucoup Hermano. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi et de partager un petit peu sur les ondes. J'espère que ça vous plaira aux auditeurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, à aller suivre dans les vestiaires et Nakane pour dire à Hermano si l'épisode vous a plu. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut.
Salut et merci encore pour l'invitation.
Ciao.